Chronique d'un siècle. Une émission culturelle présentée par Jeanne Boursier sur Radio Boomerang 89.7 FM.
Bonjour à toutes et à tous. Jeanne Boursier pour Chronique d'un siècle sur Radio Boomerang 89.7 FM. Aujourd'hui, je vous présente la troisième partie des Poilus face à la mort. Dans les deux précédentes émissions, j'avais, dans la première, présenté de façon générale ce qui avait soutenu, aidé les Poilus à vivre et à mourir pendant ces 4 ans de boucherie. Dans la seconde partie, j'avais présenté ces jeunes hommes face à la mobilisation et à leur départ à la guerre. Donc cette troisième partie est la découverte de la mort dans les tranchées, sous les obus. Ces poilus partis angoissés ou joyeux vont être rapidement confrontés à la mort. Céline, dans Voyage au bout de la nuit, résume à sa manière la prise de conscience de ces jeunes hommes de 20 ans. On est puceau de l'horreur comme on l'est de la volupté. Comment aurais-je pu me douter, moi, de cette horreur en quittant la place Clichy? Qui aurait pu prévoir, avant d'entrer vraiment dans la guerre, tout ce que contenait la sale âme héroïque et feignante des hommes? À présent, j'étais pris dans cette fuite en masse, vers le meurtre en commun, vers le feu. Ça venait des profondeurs et c'était arrivé. Céline, dans la première partie de son livre, avec son écriture si vivante, sait nous amener à l'étonnement, au désarroi, au désespoir, à la colère du poilu. Dans un très grand nombre de témoignages, l'on retrouve ces sentiments. Chez Jean Bernier, de La Percée, on peut lire cette phrase courte qui dit tout le désespoir. « Les écailles lui tombaient des yeux et son rire était mort. » Chez Aimé Boursicot, que j'ai évoqué dans la deuxième partie de cette émission, l'effroi est grand et soudain. En effet, des hussards se sont jetés devant les Allemands, s'imaginant, comme on leur avait enseigné à l'école, qu'une bataille était forcément à la manière napoléonienne. Mais hélas, nous n'étions plus au temps de Louis XIV ni même de Napoléon Ier. C'est que la chimie avait déjà fait bien des progrès, et les inventeurs avaient franchi bien des étapes. Une partie de ces malheureux fut fauchée par les mitrailleuses Bosch en arrivant au pied de la petite rivière. Et plus loin, Aimé Boursicot s'attarde sur le retour de hussards partis à la charge, comme au temps des combats de cavalerie. Les hussards dans un état abominable, les chevaux sans cavalier ou avec leurs selles sous le ventre, quelques-uns le poitrail ruisselant de sang, courant, affolé jusqu'à l'épuisement. Un petit intermède avec une poésie de Déroulède mise en musique par Georges Daguerre. Un petit mot sur Paul Déroulède qui fut le fondateur de la Ligue des Patriotes. C'était un revanchard exalté, considéré souvent d'ailleurs comme l'un des précurseurs du fascisme à la française. Il désirait envoyer à la mort, avec le sourire si possible, des millions d'hommes, lui qui avait fait 1870 et qui pleurait encore la perte de l'Alsace et de la Lorraine. Il n'eut pas la joie malsaine de voir la mobilisation de 1914, puisqu'il mourut cette même année, mais en janvier, à l'âge de 67 ans. Il faut écouter les paroles qui sont un encouragement à mourir pour la patrie, et joyeusement surtout. Voici donc... Vœu suprême.
Une tombe à moi, pourquoi faire? Dormir tout seul, je ne veux pas. Je veux dormir dans la sueur, côte à côte avec mes soldats. Je veux dormir dans la sueur, côte à côte
Exaltés, comme Charles Péguy, qui écrivit en 1913 un poème de 8000 vers dont certains ont été mis en musique. Ce poème, Ève, je ne résiste pas à l'envie de vous en lire quelques vers. Heureux ceux qui sont morts pour la terre charnelle, mais pourvu que ce fût dans une juste guerre. Heureux ceux qui sont morts pour quatre coins de terre. Heureux ceux qui sont morts d'une mort solennelle. Heureux ceux qui sont morts dans les grandes batailles, couchés dessus le sol à la face de Dieu. Heureux ceux qui sont morts sur un dernier haut lieu, parmi tout l'appareil des grandes funérailles. Heureux ceux qui sont morts pour des cités charnelles, car elles sont le corps de la cité de Dieu. Heureux ceux qui sont morts pour leur âtre et leur feu, et les pauvres honneurs des maisons paternelles, car elles sont l'image et le commencement, et le corps et l'essai de la maison de Dieu. Heureux ceux qui sont morts dans cet embrassement, dans l'étreinte d'honneur et de terrestre aveu. Car cet aveu d'honneur est le commencement et le premier essai d'un éternel aveu. Heureux ceux qui sont morts dans cet écrasement, dans l'accomplissement de ce terrestre vœu. Car ce vœu de la terre est le commencement et le premier essai d'une fidélité. Heureux ceux qui sont morts dans ce couronnement et cette obéissance et cette humilité. Heureux ceux qui sont morts, car ils sont retournés dans la première argile et la première terre. Heureux ceux qui sont morts dans une juste guerre. Heureux les épis mûrs et les blés moissonné. Eh bien, il fut exaucé puisqu'il mourut le 5 septembre 1914, le premier jour de la bataille de l'Ourcq. Je laisse la parole à un témoin qui était à ses côtés.
On nous avait donné comme consigne d'enlever à la baïonnette ce village de Montion que vous voyez en face de vous, avec le château et la vieille église. On nous avait dit qu'il faut enlever ça à la baïonnette. Or, nous avions 3 km de terrain à parcourir, terrain découvert avec une redoutable ligne allemande qui occupait toutes ces petites, ce petit ruisseau de la sorcière et les peupliers qu'il protège, et qui nous voyaient parfaitement bien, tandis que nous ne les voyions pas. Les Allemands avaient un uniforme qui les confondait avec la terre. Et alors nous avions cette folie sanglante, n'est-ce pas, d'avoir à prendre à la baïonnette sur un parcours de 3 km.
Vous avez peur ?
Peur, non. Non, on n'a pas eu peur. La peur, mais c'est un sentiment que tout homme connaît, et que tout soldat connaît. Ceux qui viendront vous dire « je n'ai pas eu peur », mais ils mentent, ceux-là, n'est-ce pas ?
Mais est-ce que la charge à la baïonnette n'est pas un peu particulière ? Est-ce que ça n'engendre pas de
la charge à la baïonnette, c'est un peu, c'est spécial. L'attaque à la baïonnette est une chose barbare, sanglante. N'est-ce pas, c'est un peu l'attaque à l'arme blanche du 15e siècle. N'est-ce pas, on ne peut pas analyser le sentiment de l'homme qui se rue sur son semblable en face de lui avec une arme blanche pour lui percer la poitrine ou se l'avoir percé par son adversaire.
Est-ce que vous buviez de l'alcool avant de partir à l'attaque ?
Oui, on nous avait nourris copieusement avec de l'alcool plus ou moins frelaté à l'éther, n'est-ce pas, qui nous remontait le moral.
Et vos officiers montent à l'assaut aussi, comment ?
Les officiers braves. Les officiers héroïques fous, n'est-ce pas ? L'officier ne voulait pas se coucher. C'était un déshonneur, une sorte de déshonneur. Il avait conservé cette mentalité des Saint-Cyriens partant à l'assaut avec leurs casoars et les gants blancs, n'est-ce pas ? C'était pour l'officier une sorte de sentiment déshonorant que celle de se coucher à côté de son homme. Alors que la suite a été tragique. Je prends l'exemple de ma compagnie, la 19e, où sur 4 officiers, 3 officiers ont été tués en l'espace d'une demi-heure, n'est-ce pas ? Et les hommes, les 60 ou 80 hommes survivants qui restaient, ont été livrés absolument à eux-mêmes.
Votre lieutenant, comment s'est-il comporté lors de cette attaque ?
Héroïquement, comme tous les officiers. Quand le capitaine est tombé, au pied de l'arbre Trempe, qui est à 200 mètres ici à droite, il a pris effectivement le commandement de la compagnie, a sorti son épée du fourreau, il avait le revolver au poing, il a rentré dans sa gaine, a sorti son épée, et s'est dressé devant nous en criant « Le capitaine est tombé, je prends le commandement, suivez-moi en avant à la baïonnette ». Nous avons donc suivi ce brave lieutenant sur quelques dizaines de mètres, mais les rafales de mitrailleuses étaient telles qu'il a fallu se coucher. Un grand nombre de mes camarades, une centaine, étaient déjà tombés morts, et une cinquantaine environ de blessés, c'est-à-dire que la compagnie était complètement saccagée. L'un des officiers venait d'être tué, après le capitaine Guérin, le commandant de la compagnie, et il restait donc le lieutenant en question qui avait pris le commandement. Il restait debout sous la rafale, quand tout à coup, après que nous lui ayons crié « couchez-vous, nous n'avons plus de sac, mais moi non plus, je n'en ai pas », criait-il, les voyez bien, tirez, tirez, nom de Dieu ! Alors nous tirions comme des mercenaires, nous avons épuisé presque toutes nos cartouches, et à ce moment, une balle est venue frapper ce pauvre lieutenant au front, et il est tombé sans un cri, dans un souffle, disant simplement « Oh mon Dieu, mes enfants !»
Comment s'appelait ce lieutenant ?
Ce lieutenant, le pion, c'était mon lieutenant, c'était Charles Péguy.
Cette interview date des années 60, et l'on sent bien à travers le témoignage que cette guerre ne fut pas celle que les livres scolaires dépeignent couramment. Aujourd'hui, de toute manière, elle n'est plus qu'évoquée. Bientôt, elle n'existera plus. Ce qui ne serait pas sans déplaire au pouvoir politique, qui n'aime pas trop parler de cette guerre. Elle dérange si l'on dit la vérité. Il faut juste qu'on en reste à l'hommage aux soldats inconnus, rendus sous l'arc de triomphe au son du clairon qui sonne, la sonnerie aux morts, que je vous laisse écouter. Thank you. Non, ces hommes de 20 ans ne riaient pas face aux obus, comme Barrès et d'autres ont osé l'écrire. Éric Maria Remarque, dans son livre « À l'Ouest, rien de nouveau », a laissé un témoignage bouleversant et horrifié de cette guerre. Je suis jeune, j'ai 20 ans, mais je ne connais de la vie que le désespoir, l'angoisse, la mort et l'enchaînement de l'existence la plus superficielle et la plus insensée à un abîme de souffrance. Je vois que les peuples sont poussés l'un contre l'autre et se tuent sans rien dire, sans rien savoir, follement, docilement, innocemment. Je vois que les cerveaux les plus intelligents de l'univers inventent des paroles et des armes pour que tout cela se fasse d'une manière encore plus raffinée et dure encore plus longtemps. Et tous les hommes de mon âge, ici et de l'autre côté, dans le monde entier, le voient comme moi. C'est la vie de ma génération, comme c'est la mienne. Que feront nos pères si un jour nous nous levons et nous nous présentons devant eux pour réclamer des comptes ? Qu'attendent-ils de nous lorsque viendra l'époque où la guerre sera finie ? Pendant des années, nous n'avons été occupés qu'à tuer. Ça a été là notre première profession dans l'existence. Notre science de la vie se réduit à la mort. Qu'arrivera-t-il donc après cela ? Et que deviendrons-nous ? La mort, il faut vivre avec à chaque minute. Ces hommes, avec toute leur jeunesse, qui ne demandent qu'à vivre, regardent en face les machines de guerre qui vont les faucher, regardent en face les cadavres s'amonceler. Lazare Ponticelli se souvenait que pour aller à l'attaque à Verdun, il fallait monter sur les morts. Un autre témoin de Verdun se rappelait que la première parole de leur commandant fut « Vous êtes venus ici pour crever ». Verdun, tout à sa bol. Mais malheureusement, l'on pourrait énumérer tant de batailles pendant ces 4 ans qui furent aussi meurtrières, aussi épouvantables, aussi éprouvantes. Mais je laisse parler les témoins. Jean Vergne décrit une tranchée à Verdun. Je n'ai pas faim. J'ai soif seulement. Le soir, on descend remplir les bidons à l'étang. Il y a des cadavres qui pourrissent dans cette eau. On sent un goût de vase en la buvant. Elle dessèche la langue au lieu de rafraîchir et on boit encore, encore. On a soif. On a soif. Toutes les nuits, nous sommes là, debout et anxieux dans nos trous. Oh, toutes ces nuits, qu'elles sont longues. Oh, nuits de Verdun, nul ne dort ici, sauf les morts. Et encore, et encore. Non, même les morts n'ont pas encore pu dormir en paix. Je suis toujours ivre de sommeil jusqu'à en tituber. Quelle puanteur dans cette tranchée. J'ai du camphre, j'en mets dans un mouchoir que je maintiens sous mon nez. Nous veillons, silencieux, le reste de la nuit. Au petit jour, je vois dans quel état je suis, couvert de boue, des pieds à la tête. Mon fusil est plein de terre. J'aperçois un bout de chiffon qui pend dans la tranchée, je m'en empare. Il va me servir à astiquer mon flingot. Horreur ! Je tiens avec ce chiffon une poignée de chair humaine en putréfaction. Je le rejette vivement. Il fait jour. Je constate que les parois de cette tranchée ne sont qu'un pâté de terre et de chair humaine, avec 1000 débris d'armes et de vêtements. Cette terre a été tournée et retournée. Les cadavres qu'elle contient ont été enterrés, déterrés, mis en morceaux et mêlés plusieurs fois. Et Paul Flamand se souvient aussi. Nous vivons ici dans une boue immonde. Il tombe sans cesse des pluies diluviennes. Et lorsque le soleil luit soudain, des mouches infectes bourdonnent sur le charnier humide où ont été creusés nos abris et nos tranchées. La glaise des boyaux est remplie de cadavres momifiés, allemands et français, qui se confondent avec la teinte neutre des choses, parmi les armes brisées et les épaves dont le sol de cette région est resté jonché depuis les furieux combats de 1916. Ça et là, une main crispée sort de terre. Un soulier chaussant un tibia apparaît à la suite de quelques éboulements. Nos hommes indifférents, ou plutôt philosophes, y accrochent leurs bidons. La mort apporte ainsi son aide secourable aux vivants, et continue à participer à la vie de l'escouade. Je pourrais vous lire pendant des jours les témoignages déchirants de ces hommes. Je vous laisse écouter un chant patriotique écrit en 1916 par René Mercier et mis en musique par Eugène Jouyot. Verdun, on ne passe pas. Je voudrais insister sur l'horreur que ces hommes ont vécue. Voici donc quelques extraits de lettres venues d'hommes de milieux différents. L'une est d'Eugène Emmanuel Lemercier, un jeune peintre né dans une famille bourgeoise, tué en 1916, et dont je vous recommande la lecture des lettres. La deuxième est d'Henri Barbus, l'auteur du célèbre Le Feu. Henri Barbus, communiste, convaincu, et qui finit d'ailleurs sa vie à Moscou. Le troisième extrait de Maurice Genevoix, qui devint écrivain après cette épreuve, qui nous a laissé un des grands témoignages de la guerre de 14-18, ceux de 14, et qui toute sa vie fut un grand pacifiste. Et enfin, le quatrième texte est du peintre, Fernand Léger. Tu ne peux savoir, ma mère aimée, ce que l'homme peut faire contre l'homme. Voici 5 jours que mes souliers sont gras de cervelles humaines, que j'écrase des thorax, que je rencontre des entrailles. Les hommes mangent le peu qu'ils ont, à côté à des cadavres. Le régiment a été héroïque. Nous n'avons plus d'officiers. Lettre d'un soldat de Lemercier. Dans le boyau même, il y avait des cadavres qu'on ne peut retirer de là ni ensevelir. On n'a pas eu le temps jusqu'ici. Et qu'on piétine en passant. L'un d'eux, qui a un masque de boue et 2 trous d'yeux, laisse traîner une main qui est effilochée, à moitié détruite par les pieds des soldats qui se hâtent en file le long de ce boyau. On a pu le voir. Le boyau étant couvert à cet endroit, on a allumé une seconde. N'est-ce point macabre ces morts qu'on use de la sorte comme de pauvres choses ? Lettre de Henri Barbus à sa femme. Cette guerre est ignoble. J'ai été pendant 4 jours souillé de terre, de sang, de cervelle. J'ai reçu à travers la figure un paquet d'entrailles et sur la main une langue à quoi l'arrière-gorge pendait. Je suis écœuré, saoul d'horreur. Extrait cité dans Les Éparges de Genevoix. Les débris humains commencent à apparaître aussitôt que l'on quitte la zone où il y a encore un chemin. J'ai vu des choses excessivement curieuses. Des têtes d'hommes presque momifiées émergeant de la boue. C'est tout petit dans cette mer de terre. On croirait des enfants. Les mains surtout sont extraordinaires. Il y a des mains dont j'aurais voulu prendre la photo exacte. C'est ce qu'il y a de plus expressif. Plusieurs ont les doigts dans la bouche. Les doigts sont coupés par les dents. J'avais déjà vu cela le 13 juillet en Argonne. Un type qui souffre trop se bouffe les mains. Pendant près d'une heure, avec des attentions de chaque minute pour ne pas me noyer, car tu n'ignores pas que de nombreux blessés meurent noyés dans les trous des 380, qui ont 3 mètres de profondeur et plein d'eau. Il faut savoir ces choses-là. Fernand Léger, une correspondance de guerre. Alors, comment supportèrent-ils cela ? Dès que l'on touche le sujet, les historiens, pour la plupart, s'offusquent, car l'on ne doit pas dire que ces braves poilus étaient sous l'effet de drogue. Or, Genevoix, comme Bartas, le tonnelier qui a laissé ses carnets, et comme beaucoup d'autres témoins français ou allemands, ont affirmé que l'agneau distribué avant le combat avait un goût d'éther, ainsi que l'a souligné le témoin que je vous ai fait écouter tout à l'heure. On le sait, l'éther provoque bien-être, euphorie, suppression de la douleur. Mélangé à l'alcool, on imagine aisément l'état second dans lequel les soldats sortaient de la tranchée. La cocaïne aussi était fournie par l'armée pour calmer, pour améliorer les performances des soldats, pour diminuer la soif et la faim. Genevoix parle des pilules de différentes couleurs que les médecins leur distribuaient, cocaïne, opium et d'autres dont ils ne connaissaient pas la composition. Junger, Ernest Junger, a laissé des écrits sur ce phénomène, car sa première expérience de la drogue a été faite pendant la guerre de 14-18. Il existait un petit kit médical dans lequel on trouvait de l'éther pur, de la cocaïne, de la morphine, de la caféine, qui est un stimulant, qui permet l'endurance, l'ergotinine, qui vient de l'ergot du seigle, qui est un champignon vénéneux et dont les effets sont similaires à ceux du LSD, qui en est un dérivé, de l'huile camphrée. Le camphre est un anti-aphrodisiaque et un stimulant de l'organisme. La spartéine induit des comportements radicaux et même violent pour la défense du groupe. À cela, il faut ajouter des méthodes militaires bien connues depuis des siècles, comme la privation de sommeil, la déshydratation et la malnutrition. Ce sont des moyens efficaces pour annihiler toute volonté. Mais toutes ces méthodes et ces psychotropes n'ont pas empêché les mutineries ou les chansons contre la guerre, comme dans les tranchées de Lagny, écrite en 1917 par un soldat anonyme sur l'air de Sous les ponts de Paris de Vincent Scotto.
« en face d'une rivière, du côté de la nuit, près des amas de pierres qui restent de la nuit. Dans la tranchée des peupliers, vite on se défile en cachette, braquant le fusil sur l'ennemi, prêt à presser sur la gâchette. Aux abords de la nuit, lorsque descend la nuit, dans les boyaux on se défile en cachette, car la mitraille nous fait baisser la tête. Si parfois un obus fait tomber un poilu, près du cimetière on dérobe ses débris. Aux abords de la nuit, le jour on se repose, après 6 jours de turbin. Ce qu'on fait, c'est la même chose, on va se laver un brin. Aux abords de Metz, c'est ça qui est bat, de regarder tous ces militaires se laver, se brosser, se frotter les pattes aux effets de la bonne eau claire. Au village de Lagny, lorsque descend la nuit, après la soupe en quelques bouteilles, les boîtes de vin se comportent à merveille. Allons mon vieux cabot, vite encore 1 kilo, afin de nous faire oublier les ennuis des environs de la nuit. Là la soupe qui s'achève, on prépare son fourbi, car ce soir c'est la relève, on va quitter la nuit. Des provisions et son bidon, voilà ce que jamais on oublie. Au petit bois, je connais l'endroit où l'on surveille sa patrie. Aux environs de la nuit, lorsque descend la nuit, comme on ne peut se payer une chambrette, le brave troupier se prépare une couchette dans un trou ténébreux, faisant des rêves affreux. Il se relève pour payer l'ennemi aux environs de la nuit, connaissant bien leur thème, marchant d'un pas hardi. Poilu de la 5e, au 69, il dit, s'en vont bon train, tous bons copains, ensemble ils ne craignent pas les boches. Si l'ennemi tue un ami, il l'emporte loin de ses rosses. Aux environs de la nuit, lorsque descend la nuit, le brave troupier est couché sur la terre, dans son sommeil il lit la misère. Si la paix venait sous peu, comme nous serions heureux, plus de massacres nous verrions nos pays qui sont loin de la nuit. Plus de massacres nous verrions nos pays qui sont loin de
Oui, les poilus cédaient par de multiples moyens, la drogue, les chants, l'alcool, mais aussi par la religion, se remettre entre les mains de la Vierge, ou bien se tourner farouchement vers la politique, le communisme surtout à partir de 1917, car le socialisme en avait déçu plus d'un, en s'associant à l'Union sacrée. Faire la guerre à la guerre, qu'il disait. Nombreux en sont revenus de cette propagande. Une seule chose comptait, survivre. quoique beaucoup se suicidèrent en sortant la tête de la tranchée, comme l'écrivain Émile Clermont. Ou bien en marchant sur le parapet afin d'être sûr d'être tué. D'autres survécurent en tombant dans la folie, car leur raison ne pouvait plus supporter autant d'horreur. Georges Gaudy, dans ses souvenirs, évoque cette envie de mourir. « J'avais la dysenterie et 38 degrés de fièvre le matin du deuxième jour, mais je ne voulus pas me faire porter malade. Les autres, pensais-je, croiraient peut-être que j'ai peur, puisque c'est ce soir qu'on y revient. Je suivrai, je marcherai, et quand je ne pourrai plus, je m'arrêterai pour crever. » Crever, ce mot exprime mieux la fin de notre vie épuisée, l'agonie de nos forces rompues, que celui-ci mourir. Il ne m'effrayait plus maintenant. C'était trop de souffrance, bien plus qu'on n'en peut supporter. Si j'avais vu creuser ma fosse, sans surprise et sans regret, je m'y serais couché. J'enviais les morts qui dorment dans les cimetières. Ils ne sentent plus la douleur, leur calvaire est terminé. Garros, surexcité par le tapage et l'alcool qu'il avait bu, se dressa sur le berne du boyau. « Je voudrais, cria-t-il, recevoir tous ces obus dans le ventre. Je veux mourir pour ma femme et ma petite fille. » Nous le tirions par sa capote pour le faire descendre, voulant le calmer. Peine inutile. « Vous ne m'empêcherez pas de mourir, hurlait-il. J'en ai marre, moi, j'en ai marre. » Il étendait les bras et vociférait, entouré de flamboiements. C'était tragique. Il évoque aussi la folie qu'envahit les hommes. Un homme sans casque et sans armes se dresse devant nous. Il nous regarde venir fixement. Il nous observe avec des yeux fous qui font peur. Il ne se dérange pas pour nous laisser passer. Et quand Beunier lui dit « Oh, toi donc, que fais-tu là ?» il demande sur un ton qui nous glace « Avez-vous vu ma femme et mes enfants ? Il y a longtemps que je les cherche. Oh, si vous saviez. Si vous saviez les choses qui se passent. » Puis un rire le secoue. Un rire démoniaque et strident. Il sort du boyau, pousse un long cri, bondit, s'élance, s'éloigne. Il ramasse une branche sur le sol et s'en servant comme d'un fusil, il se met à faire l'exercice en se commandant lui-même. L'arme sur l'épaule, droite, présentée, arme. Oh, le malheureux. D'autres groupes du 119e passent toujours en courant. Les hommes qui les composent me paraissent fous, eux aussi, avec leur regard d'épouvante. Et nous allons toujours comme des brutes, accablés. « Tu connais le secteur ? » demande l'officier. « Où est le boyau ?»« Le boyau, » répondit-il. « Le boyau. Je connais ça, le boyau. » Il se tait un instant et poursuit. « Donnez-moi de la lumière. Les autres n'ont pas voulu m'en donner. Oh, je n'aime pas la nuit. » Dans le frisson qui nous agite, nous avons compris. Ce malheureux blessé est aveugle et dément. Oh, mais c'est trop d'horreur. Alors Beunier parle à ce misérable d'une voix très douce que je ne lui connaissais pas. Si douce que de l'entendre, je pleurerais. Mon pauvre vieux, dit-il. On ne peut pas allumer, voyons. Le jour va venir bientôt. Mais tu sais qu'on se ferait repérer avec de la lumière. Ah oui, dit l'autre. Repérer, ah oui. C'est à cause du bombardement. Et de ses yeux sans regard, voilà que des larmes coulent, silencieuses. Et puis, c'est le retour des troupes. Après l'enfer. Le lendemain, nous demeurâmes durant des heures. Immobile, comme cloué par le spectacle qui se déroulait sous nos yeux. Des troupes relevées redescendant des lignes traversaient l'Andrecourt. Ces hommes, la bouche ouverte, les traits tendus comme des cordes par la fatigue, les joues dévalées, baissant le front, ployant les genoux, allaient comme dans le plus affreux des cauchemars, le regard rentré. Ils passaient en aveugle et ne nous voyaient pas. Impossible de décrire cet inexprimable regard. L'enfer. Des mortels qui l'auraient visité, subi, en seraient revenus peut-être, avec sous la paupière cette lueur étrange, exprimant on ne savait quoi d'indicible, signifiant l'impuissance de la parole. Ce furent d'abord des squelettes de compagnie, que conduisait parfois un officier rescapé, s'appuyant sur une canne. Tous marchaient, ou plutôt avançaient à petits pas, les genoux en avant, ployés sur eux-mêmes et zigzagant comme pris de boisson. Puis vinrent des groupes qui étaient peut-être des escouades, peut-être des sections, on ne savait pas. Ils allaient la tête penchée, le regard morne, accablés sous leur barda, tenant à la bretelle leurs fusils rouges et terreux. C'est à peine si la couleur des visages différait de la couleur des capotes. La boue avait tout recouvert, avait séché, et d'autres boues avaient à nouveau tout souillé. Les vêtements, comme la peau, en étaient incrustés. Des autos se précipitaient en grondant, par colonnes serrées, éparpillant ce flot lamentable des survivants de la grande hécatombe. Mais eux ne disaient rien, ne geignaient plus. Ils avaient perdu jusqu'à la force de se plaindre. On voyait dans les regards un abîme inouï de douleur quand ces forçats de la guerre levaient la tête vers les toits du village. Et dans ce mouvement, leurs traits apparaissaient figés dans la poussière, étendus par la souffrance. Il semblait que ces visages muets criaient quelque chose d'effrayant, l'horreur de leur martyre. Des territoriaux qui regardaient à côté de moi restaient pensifs. Ils avaient cet air de tristesse qui vous vient devant un enterrement qui passe. J'en entendis un qui disait « C'est plus une armée, c'est des cadavres ». Et un autre, un petit vieux avec des poils gris sur la face, murmura « On devrait se mettre à genoux devant eux ». Deux de ces territoriaux pleurèrent en silence, comme des femmes. Les martyrs de cette boucherie affirmaient qu'ils mourraient deux fois, la première dans la tranchée et la deuxième par l'oubli. C'est contre cet oubli que j'essaie de lutter. Seul, un extrait du De Profondis du compositeur et organiste Marcel Dupré, une œuvre écrite en 1917 en hommage à tous ces hommes morts pour la patrie, lui qui avait été réformé pour raisons médicales importantes, peut terminer cette émission. À bientôt sur Radio Boomerang 89.7 FM.
Chronique d'un siècle. Une émission culturelle présentée par Jeanne Boursier sur Radio Boomerang 89.7 FM.